Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio Zinzinex et vous écoutez l'émission Mare Nostrum, préparée et présentée par Raymond, avec Fabrice à la technique. Aujourd'hui, c'est notre 18e numéro et nous allons nous intéresser à ce qui s'est passé à Marseille en mai-juin 1968, essentiellement à partir de témoignages évoqués dans une publication récente qui s'intitule « Marseille-Paris, les belles de mai » aux éditions Sileps. Pour en parler, nous recevons Gérard Lédé. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes président de l'association ProMémo, Provence, Mémoire et Monde Ouvrier, avec qui Mare Nostrum est partenaire.
Oui.
Et qui travaille depuis longtemps sur l'histoire populaire et ouvrière de Marseille et sa région. Vous êtes donc le coordinateur de cet ouvrage collectif.
C'est ça, oui, avec Bernard Régodia.
Avec Bernard Régodia, qui devait peut-être venir, mais qui n'a pas pu.
Qui est sur Paris, là.
Il avait d'autres obligations. Et nous recevons également Marie-Noëlle Hôpital, bonjour.
Bonjour.
Dont vous avez été enseignante et vous avez contribué à ce travail. Parmi d'autres activités, vous animez des ateliers d'écriture et participez à des revues comme Souffle et Filigrane.
En effet.
Voilà, donc mai-juin 68, Paris-Marseille. On va essayer d'en savoir un peu plus, peut-être savoir un petit peu, peut-être quelques différences. Il y a quelques différences quand même importantes avec, avec Paris. Et on va peut-être commencer par planter un petit peu le décor de Marseille, à ce printemps, cet hiver et ce début de printemps 1968. Donc quelle est la situation politique et sociale à Marseille avant le mouvement? Alors je dis avant le mouvement, mais en fait, on verra que le mouvement, il a commencé déjà un peu avant.
Hein. Oui. C'est pour ça qu'on on préfère parler, nous, des années 68.
Voilà.
Mettre un pluriel. Surtout ne pas être centré que sur le mois de mai, parce que du coup, ça met la focale sur le mouvement étudiant, qui a été un moment intense, c'est vrai, mais on oublie juin, qui a été le moment important de la grève ouvrière, donc ça évacue un peu cet aspect-là des choses. Et puis ça évacue les origines de mai 68, qui se situent en amont et en aval, quoi. Au début de la décennie, 1965, où le gaullisme a été ébranlé une première fois par la grève des mineurs, même en 63, et puis une série de mouvements sociaux dans le monde ouvrier et chez les agriculteurs, on l'oublie souvent, qui ont ébranlé le pays dans l'ouest de la France par des manifestations importantes, parfois violentes. Et puis la décennie qui va suivre, dont Ludivine Bantini, une très bonne historienne de la période, dit que c'est une décennie critique et qui va connaître des mouvements sociaux et sociétaux avec l'irruption des questions nouvelles, là, du féminisme, de l'écologie, des façons alternatives de vivre. Donc voilà, il faut voir ça un petit peu dans la longue durée aussi.
Oui, c'est ça. Voilà. Il y a un bouleversement sociétal important. Et alors, que penser de la fameuse phrase de Vincent Ponté, là, hein, qui disait que ce qui caractérise actuellement notre vie publique, c'est l'ennui. Les Français s'ennuient. Ils ne participent ni de près ni de loin aux grandes convulsions qui secouent le monde. Il écrit ça le 15 mars 1968, ce qui est quand même la preuve d'un manque de clairvoyance assez extraordinaire, parce qu'il y avait quand même des éléments précurseurs.
Oui, il est resté ce terme d'ennui à propos de l'éditorial de Pierre Vincent-Ponté. Si on le relit en entier, ce que j'ai fait avant de venir ici un petit peu, il évoque, alors c'est en filigrane, c'est un petit peu à mesa voce, mais il évoque un petit peu cette classe ouvrière qui est inquiète. Il commence à y avoir des menaces sur l'emploi. Et Vincent-Ponté dit, soyons attentifs à cette situation sociale qui n'est pas aussi mirobolante que ça. Il n'est pas de ceux qui vont critiquer les fameuses 30 glorieuses, parce qu'on pourra en parler dans le débat après, elles n'ont pas été glorieuses pour tous, pour toute la population française. Voilà, mais il signale un petit peu ces inquiétudes du monde ouvrier, et puis notamment ces jeunes qui vont commencer à avoir des diplômes et qui ont le souci un petit peu de leur avenir dans le monde de l'emploi. Il y a 300 à 400 000 chômeurs à l'époque. Et Pompidou dit, je ne sais pas si c'est à De Gaulle ou si c'est à un de ses collègues ministres, faisons attention parce que le jour où il y aura 500 000 chômeurs, il y aura la révolution en France. Comme quoi, parfois, les paroles ne sont pas suivies d'actes. Et
absolument.
Puis, voilà.
Ouais.
C'est étonnant parce que ça donne la mesure de comment on appréhendait les choses dans ce cœur des années 60.
Oui, ça n'a pas tellement fait changer les orientations. Quoique, on en parlera tout à l'heure. Parce que ce qui est quand même intéressant, c'est que dans cet éditorial, il cite aussi plein de choses qui ont fabriquer un petit peu le mouvement de mai 68. Alors il cite la guerre du Vietnam, le conflit du Moyen-Orient, le coup d'État en Grèce, l'apartheid, etc. etc. Mmh. Il cite plein de choses. D'un air de dire que les Français ne s'en rendent pas bien compte. C'est pour ça que je disais qu'il y a quand même un peu une clairvoyance qui n'est pas tout à fait évidente de sa remarque, surtout quand il parle de mélancolie politique en France.
Oui.
C'est quand même un peu...
En tout cas, la mélancolie va être bien bousculée. Quoi.
Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement à Marseille, oui. Situation politique et sociale avant ce mouvement, quelles sont, on pourrait dire, entre guillemets, les forces en présence?
Oui, j'avais un peu contourné là. Mais pour revenir à Marseille, on est dans l'héritage de l'après-guerre, à savoir une présence hégémonique du Parti communiste, aussi importante sinon plus qu'au plan national, avec des scores électoraux. C'est la première force politique à Marseille. Elle le demeurera jusqu'en 81 d'ailleurs. Georges Marchais sera le candidat qui arrivera en tête en 81. Et ce parti communiste, il s'appuie sur une kyrielle d'organisations, Secours Populaire, enfin une série d'associations comme ça, et surtout sur la CGT, qui est ultra puissante, notamment sur le port. Donc voilà, c'est ici. Et il est, depuis les années 30, il y a un fort courant aussi socialiste à Marseille, incarné par Gaston Defer, qui est maire depuis 1953. Mais Defer a constitué très tôt ce qu'on appelait, sous la 4e République, une troisième voie. Hein, une force qui était à mi-chemin, enfin, entre les communistes et les gaullistes. Hein. Malraux disait, entre les communistes et les gaullistes, il n'y a rien. Et bien, Defer, à Marseille, il montre qu'il y a cette force-là. Et il s'allie avec une partie, si ce n'est du centre, du moins de la droite, avec notamment Rastoin, qui est un représentant des milieux financiers et commerciaux de la ville. Et du coup, la SFIO de l'époque, le Parti Socialiste, s'appuie lui aussi sur une autre force syndicale, ces forces ouvrières, alors qui n'est pas présente du tout dans l'industrie, hein, dans les forces vives où c'est la CGT qui règne, mais c'est surtout sur les municipaux, chez les commerçants, enfin plutôt dans le tertiaire. Voilà, donc il y a ces deux forces de gauche omniprésentes à Marseille qui pèsent de tout leur poids.
Oui, parce que Gaston Defer, il aura l'occasion de se présenter, enfin de préparer éventuellement une élection présidentielle, une candidature à une élection, oui. Justement sur ce thème-là de la troisième force, la force intermédiaire.
Oui, il va tenter à deux reprises. En 65, c'est la fameuse candidature de Monsieur X,
voilà,
lancée par l'Express, qui va échouer, et c'est François Mitterrand qui va représenter la gauche de gouvernement, allié avec les communistes. Et puis en 69, il se présentera, mais ça sera un échec, je crois, 5,5%, en tandem avec Pierre Mendès-France.
Oui, c'est ça. C'était un peu à l'américaine. Là, on voulait présenter ça un peu à l'américaine.
Et puis, pour dire un mot encore, il y a le chiffre qui peut donner un petit peu la mesure de cette force de la gauche, ce sont les élections législatives de mars 67. Sur les 11 circonscriptions des Bouches-du-Rhône, il y a 5 députés communistes et 6 de la FGDS. La FGDS, c'est la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, qui regroupe essentiellement des militants et des dirigeants de la SFIO, du Parti Socialiste, mais des radicaux aussi, et puis des petits clubs, comme la Convention des institutions républicaines, on a oublié ça. Mais le leader était un certain François Mitterrand.
Oui, c'est ça. C'est le début du rassemblement de la gauche.
Qui... À l'époque, on parle de gauche non communiste.
Voilà, de gauche non communiste. C'est ça. Ce n'est pas encore celle qui va arriver à inverser le cours des choses en 81, le rapport de force.
C'est ça.
Alors donc, cette situation politique, elle est dominée donc principalement quand même par la gauche à Marseille. Socialement, c'est plutôt le syndicat CGT imprime sa puissance sur, on va dire, tout ce qui est industriel à Marseille. Mmh. Et donc déjà, on a une ville qui a une orientation, qui est une orientation d'opposition par rapport au pouvoir gaulliste.
Oui,
est-ce que les gaullistes sont puissants, forts, importants? De quelle nature est la présence des gaullistes à Marseille à ce moment-là?
Alors ils vont le devenir surtout, c'est le paradoxe, au lendemain de mai 68, aux élections, les fameuses élections de la peur, où ils vont passer en tête, y compris devant le Parti communiste sur Marseille. Voilà, là il va y avoir une force de droite gaulliste. entre-temps qui se sera un petit peu appuyé, notamment en juin, lors de la grande manifestation à Paris, sur les anciens de l'OAS, hein, sur la partie de cette extrême droite qui s'était écartée de Gaulle pendant la guerre d'Algérie, certains vont revenir là. Et de Gaulle va renvoyer l'ascenseur, il va réhabiliter Salan, enfin, il va y avoir des signes un petit peu, des passerelles nouvelles, entre la droite gaulliste, républicaine, et puis cette extrême droite qui, voilà, qui revient un petit peu dans le giron des gaullistes. Mmh.
Voilà. On va faire une petite pause musicale. On va écouter une très belle chanson de Moustaki. Ah.
Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage.
Vous écoutez Radio Zinzine, l'émission Mare Nostrum, consacrée aujourd'hui à Marseille 1968 avec Gérard Lédé et Marie-Noëlle Hôpital. Parlons un peu de la chronologie des événements à Marseille. Voir un petit peu le rapport de cette chronologie avec les événements de Paris et du reste de la France. Rapidement, on ne va pas réciter la chronologie.
Non, pas la réciter. L'essentiel se fait quand même en écho avec Paris. On a un mouvement, notamment étudiant marseillais, autour essentiellement de la faculté de sciences. D'ailleurs, c'est là que ça va être le point d'accroche de toutes les manifestations. Donc ce mouvement étudiant est à l'écoute, la télévision n'est pas encore fermée, on n'est pas encore à l'époque des transistors, à la fin du mois de mai, on va suivre l'actualité avec les transistors. Donc il y a un écho avec Paris, et pour avoir une spécificité du côté de Marseille, c'est du côté du mouvement lycéen qui part très tôt. Vraiment à Marseille, les lycéens partent très tôt, ils sont organisés en CAL, comité d'action lycéen. Et autre spécificité marseillaise, ce sont les élèves des CET, des centres d'enseignement technique qui vont se mobiliser très très fortement. Hein, qui vont d'abord, beaucoup vont partir d'Aubagne, ils vont sillonner pour rejoindre un petit peu et faire grossir leur rang les environs d'Aubagne et de Marseille à Mobilette. Et puis dans la grande manifestation du 13 mai, ils seront autour de 2000 là, collégiens, lycéens, dans la grande manifestation qui regroupe alors pour le coup l'UNEF et puis les grandes centrales ouvrières. Donc il y a vraiment cette spécificité là de ces jeunes futurs ouvriers. Je signale que 67-68, c'est la dernière année, ou plutôt la première année, où la scolarité obligatoire va passer à 16 ans. C'est la loi Berthoin de 59, qui avait été votée en 59. Et pour les enfants nés à partir du 1er janvier 53, la scolarité était prolongée de 2 années. Donc on a cette jeunesse-là qui arrive et qui est combative. Et à Marseille, c'est notamment celle-là et celle de la fac de sciences. Là.
Oui, beaucoup, beaucoup plus qu'à Paris, donc, les lycéens.
Voilà, beaucoup plus. En tout cas, surtout les lycéens de l'enseignement technique.
Oui, de l'enseignement technique, c'est curieux.
C'est une spécificité.
Spécificité.
On a retrouvé ça dans les archives, là. Michel Zancarini-Fournel en parle dans son livre, là, les luttes et les rêves aussi. Elle rappelle un petit peu cette couleur marseillaise, là, qui fait...
D'accord.
Voilà, qui donne sa couleur aux manifestations.
Oui, oui. Sur le plan du déroulement des événements... On dit que Marseille, finalement, a été plus, je vais dire presque raisonnable que Paris. C'est oui. Un petit peu ça, quoi.
Il y a effectivement, il n'y a pas les brutalités policières qu'on va connaître à Paris, qui sont terribles et qui vont faire que le mouvement ouvrier va se joindre au mouvement étudiant. C'est sur la réaction aux brutalités policières, à la répression, halte à la répression. Et les partis de gauche et les centrales ouvrières rendent responsable le gaullisme, même si certains pensent qu'il y a de l'exagération chez certains. On n'a pas parlé de l'extrême gauche. Elle est présente à Marseille.
Oui.
Notamment présente à Aix, avec les JCR, Jeunesse Communiste Révolutionnaire, qui regroupent des anciens étudiants de l'UEC qui ont été exclus au milieu des années 60. Et ils
D'accord.
sont, eux, plutôt structurés sur Aix-en-Provence. Voilà. Ils vont être au cœur du mouvement, pour le coup.
Hein. Et donc, ça aussi, c'est une spécificité de la région.
De la région, oui, oui, avec cette présence à Aix, voilà.
Un peu plus nombreuse qu'à Paris.
Voilà. Il y avait des combats houleux, enfin, pour la mainmise sur l'UNEF, notamment, entre étudiants communistes et étudiants d'extrême gauche. Voilà, il va y avoir, de ce point de vue, des luttes importantes. Mais pour en revenir à la violence, voilà, effectivement, Marseille, elle n'est pas ce qu'elle est à Paris. Pour au moins deux raisons. La première, ça a été observé ça, à travers aussi les archives, c'est que la police se tient à distance, contrairement à Paris. Il n'y a pas la volonté de la police d'aller à l'affrontement et de prendre des risques pour que la tragédie suive. Donc là, il y a du côté des forces de l'ordre une espèce de prudence qui a été de bonne aloi. Et il y a sans doute, ça c'est le témoignage de Samy Josua, qui est un des grands leaders de l'extrême-gauche à Marseille à l'époque, le fait que les étudiants aussi ne voulaient pas en découdre, il n'y avait pas la volonté. Au fond, ces étudiants, on en a fait souvent des exaltés, quand on regarde de près leur attitude et leurs revendications, ils étaient entre réforme et révolution. Ils voulaient d'abord réformer l'université, s'opposer à tout ce qui était autoritarisme, à l'école, au lycée. Le lycée caserne, c'était pas un vain mot, il existait, vous l'avez peut-être connu. Moi, je l'ai connu aussi. Je me souviens du lycée Vauvenargues, où il y avait une salle pour les agrégés, une salle pour les autres profs. Tout était un petit peu comme ça. Puis la prise de parole qui n'était pas évidente dans les classes et tout. Donc il va y avoir cette lutte contre l'autoritarisme là, hein, qui va être fort. Et ce mouvement étudiant, ils ont ça en tête d'abord. Même si, alors après il faut voir du côté des leaders, et vous parliez du Vietnam tout à l'heure, ça c'est une grande cause, hein, qui vient de loin, qui vient du milieu des années 60, dans lesquels beaucoup se sont engagés par des manifestations, des pétitions, ont collecté même des fonds, ça sera l'objet du prochain témoignage là, de Marie-Noël. Et donc, ces leaders, ils ont effectivement une visée révolutionnaire, ils ont des figures emblématiques comme Che Guevara et tout, mais ils sont obligés de tenir compte du réel, et le réel, c'est quand même d'améliorer l'ordinaire des étudiants, les conditions d'accueil. Le nombre d'étudiants a été multiplié par deux entre 1962 et 1968. C'est énorme. Hein. Et les conditions d'accueil n'ont pas suivi. Les amphithéâtres sont bondés, les conditions d'enseignement sont compliquées. Et puis on ne peut plus enseigner de façon uniquement frontale comme c'était le cas jusqu'alors.
Mmh. Oui, à propos de la violence, je lisais quelque part que c'est vrai qu'à Marseille, les forces de police ont été plutôt... on va dire, plutôt peu agressive, autant que ne l'étaient pas non plus les étudiants, et que malgré tout, ils avaient commandé 400 matraques, parce qu'on ne sait jamais.
Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y a du côté des forces de l'ordre toujours la possibilité d'une vigilance et de faire face à la violence, surtout qu'on le voit sur Paris plutôt, les gardes mobiles n'étaient pas équipés pour affronter pacifiquement des foules comme ça, étudiantes, qui étaient exaltées parfois. Il y avait notamment des protections de gardes mobiles, on a vu ça, des reportages à la télévision, qui montraient que l'équipement du côté des forces de l'ordre n'était pas adéquat non plus. Ouais. Et que du coup, le corps à corps a été inévitable. Et c'est là que, dans les corps à corps, avec une matraque, les violences se sont faites jour.
Et là, il y a forcément des dégâts.
Hein. Forcément, ça va vite, bien sûr. Ça monte vite.
Donc, alors, on avait une petite lecture là, intéressante, un petit témoignage qui est intéressant. Voilà.
Alors, c'est le journal de bord d'une étudiante de l'USC, Union des étudiants communistes, à Marseille en mai-juin. Je vais lire quelques extraits. C'est Micheline Abour. On dit souvent que les nombreuses grèves de 1967 ont préparé mai 68, le mai des travailleurs en tout cas. La lutte contre la guerre du Vietnam a joué un rôle important aussi. Il y avait eu, en novembre 1967, l'immense manifestation des jeunes à Paris, puis, au début de 1968, la campagne « Un bateau pour le Vietnam » avec les camarades de ma cellule du PCF, la cellule Gabriel Péri. Nous avions sillonné les rues de notre quartier, la Vieille Chapelle, à Marseille. L'accueil était souvent très chaleureux et nous avions tissé beaucoup de liens avec les habitants. Il y avait aussi des actions à la fac, organisées par l'UNEF. Notez dans mon agenda, mardi 23 janvier, collecte pour le bateau pour le Vietnam, UNEF, Secours Populaire, Mouvement de la Paix. Arrestation des camarades qui avaient des troncs, ils seront relâchés très vite et les troncs seront rendus. Ensuite, on passe en mai-juin. Au retour des vacances de printemps, nous distribuons des tracts appelant à la manif du 1er mai. Le défilé est très important ce jour-là. Et on passe au 8. Je recopie les cours manqués, prêtés par une copine. À la fac, la grève s'étend. Je passe un moment à la Corpo, la salle de l'UNEF, à la fac de sciences. Une manifestation est prévue dans l'après-midi. Et je suis chargée d'aller à la mercerie, acheter quelques mètres de ruban pour faire des brassards pour le service d'ordre. C'était du ruban bleu clair, peut-être était tout ce qu'il y avait. Le 10, nous nous retrouvons à discuter avec le prof du certificat C, son assistant et les autres étudiants sous les platanes de la cour de la fac. Le prof de C1 passe et compare cet assistant à Socrate avec un grand sourire. Le samedi 11, très grave incident au quartier latin dans la nuit, grève générale annoncée, manifestation unitaire prévue, lundi 13, grève. UNEF, FEN, CGT, CFDT, FO, CGC, grande manif, étudiants et travailleurs ensemble, une foule immense sur la Canebière. Nous allons jusqu'au palais de justice. 50 000, pas d'incident. Je fais partie du service d'ordre, avec mon ruban au bras. Et moi, si timide, si réservée d'habitude, je n'arrête pas de lancer des slogans, repris par les autres. Cela fait 10 ans, jour pour jour, que De Gaulle est arrivé au pouvoir, après les émeutes d'Alger. Alors, l'un des principaux slogans, c'est « 10 ans, ça suffit ». Le problème des examens commence à se poser. Puis, je me souviens de longues discussions entre étudiants, les jours suivants, sur des bancs, à l'ombre des arbres, dans la cour centrale de la fac. Nous avons brassé beaucoup d'idées. Il y avait aussi des réunions dans les salles de cours, des commissions sur tel ou tel sujet. J'avais eu en première année un prof de chimie, général absolument fabuleux, à qui je dois beaucoup pour la préparation de mes cours, lorsque j'ai été moi-même professeur de physique-chimie. Il venait nous faire cours en costume et nœud papillon. Pendant la période des grèves, et je crois bien les années suivantes, le nœud papillon a disparu, remplacé par un élégant pull à col roulé. Je le revois, assis sur une table lors d'une de ces réunions. Je ne sais plus qui a dit cette phrase ou si je l'ai lue ensuite, mais elle correspond bien à ce que j'avais ressenti. Le 13 mai, quand on a vu qu'on était si nombreux, on s'est dit qu'on pouvait continuer. Ensuite, on passe au 24 mai, une journée comme beaucoup d'autres. Lycée de la Commune de Paris, fac, manifestation au centre d'embauche des dockers. Oui, il devait s'y présenter tous les jours pour être embauché, rapporter des tracts à ma mère. Vous vous demandez peut-être pourquoi le lycée de la Commune de Paris, c'était le lycée Thiers, Adolphe Thiers, qui dirigeait le gouvernement, qui a écrasé dans le sang la Commune de Paris en 1871, est né à Marseille, et une rue et une lycée portent, hélas, son nom. Le lycée Thiers a été très vite rebaptisé lycée de la Commune de Paris par les élèves. À l'époque, c'était le seul lycée de Marseille où il y avait des classes préparatoires aux grandes écoles, et les élèves de prépa étaient très mobilisés. Ceux de la préparation à l'école militaire de Saint-Cyr l'étaient aussi, mais eux passaient à longueur de journée des disques de musique militaire pour bien montrer leur opposition à ce qui se passait. Nous, cela nous amusait lorsque nous passions au lycée. Donc ensuite, elle continue à raconter tout ce qui se passe au jour le jour. Alors, je passe à la fin, où elle évoque le bouillonnement intellectuel qui l'a marqué. C'est ce bouillonnement intellectuel qui suivra mai juin 68. Le dimanche 10 novembre auront lieu les 10 heures de la Marseillaise à la Salle Vallier. J'aide à la librairie, plusieurs auteurs invités, beaucoup de monde. Nous achetons pour 140 francs de livres. Je l'ai noté avec un point d'exclamation, c'est beaucoup. Rencontre-débat avec René Andrieux, les communistes proposent dans le cadre des semaines du livre et de la pensée marxiste. Les conférences à la salle Saint-Georges continueront les années suivantes, rassemblant toujours un public nombreux. Je me souviens de la venue de mon ancien prof de français latin de première et des deux conférences de Lucien Sèvres qui nous ouvraient un monde de connaissances et de réflexions.
Alors, au début de cette lecture, on parlait de répression, puis de brutalité. Alors, pour illustrer ça, je voulais vous faire écouter la chanson de Colette Mani, Répression.
Répression, répression, répression. Alors, on garde son sang-froid ? Aïe, pardon, je vous ai écrasé gros orteil, je suis des brigades d'intervention. Répression, répression. C'est qu'un passant. Mais maintenant, pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Répression, répression, répression. On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée pour faciliter la circulation. Les trottoir c'est pour nous, la rue est à nous. Je m'ennuie. Vos papiers, si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce, mais si les cheveux vous les portez courts, on vous mettra pas dans les fours. Répression, répression, répression. Douce majorité silencieuse, pas d'opinion, pas de délit d'opinion, pas de répression, pas de répression. À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison? Pas de répression, c'est pas un homme comptable, a refusé le prix Nobel, respecte pas les institutions. Et qu'est-ce qu'il fout sur un tonneau chez Renault? Chacun son poste, nous, c'est les trottoirs.
Voilà, une chanson assez violente, comme je savais le faire Colette Mani d'ailleurs.
Assez violente, et puis je trouve très révolutionnaire dans la forme, quoi,
oui,
dans la forme musicale.
Absolument.
La scansion là, qui annonce.
Oui, oui, tout à fait.
Ça annonce
fait.
Le Léo Ferré d'Il n'y a plus rien, qui suivra un petit peu.
Oui, 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 tout à fait, c'est ça. Oui, absolument. Alors donc, bon, on en était un peu aux chronologies et puis aux comparaisons avec... avec Paris et le reste de la France. Bon, ailleurs, les choses se déroulent un peu aussi au rythme de ce qui se passe à Paris. Donc revenons sur Marseille. Les témoins, alors vous en avez rassemblé quelques-uns, on vient d'entendre une de ces témoins nous parler de ça, de son mois de mai, de son mois de juin 68, avec des choses assez intéressantes sur le quotidien quasiment.
Oui, puis l'intérêt, c'est que c'était pris sur le vif. C'est-à-dire, oui, ce sont des notes prises chaque jour, elle tenait son carnet de bord, et on n'y a pas touché. On a voulu préserver la forme originelle, ça n'a pas du tout été reconstruit. D'où le fait qu'il n'y a pas une analyse rétrospective. Elle a écrit ce qu'elle a pensé le jour même au cours des événements. Donc, oui, un document brut, c'était l'intérêt.
Ah oui, oui, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Hein, oui, parce qu'elle note au jour le jour ce qui se passe.
Voilà.
C'est ça. À quoi elle participe, son impression, ses sentiments, etc. Mmh. Mmh. Et donc, deux facs, principalement, sont... dans le mouvement, en quelque sorte, il y a la fac de sciences, où là, c'est très majoritaire. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est, et je sais que vous avez un témoignage là-dessus, il y a la fac de médecine, où justement, c'est le contraire.
Oui, là du coup, on a des facultés qui s'organisent de façon très idéologique. La fac de médecine, où c'est la gauche étudiante, l'UNEF, une UNEF affaiblie quand même, et qui va être renforcée par l'inflexion et les élans, comme on leur donnait des groupes d'extrême-gauche, notamment le mouvement du 11 mai. Ça, c'est intéressant, le mouvement du 11 mai. C'est un écho au mouvement du 22 mars de Paris. Et c'est dans la forme que c'est intéressant. Ce sont ni des partis, ni des syndicats. C'est Samuel Josua, là, qu'on peut réinterroger aujourd'hui. Il voulait trouver des formes assez spontanées qui organisent l'action, qui organisent les AG. Voilà. Mais ils n'avaient pas de base programmatique. Ils n'avaient pas une vision à moyen terme. Ils trouvaient que la situation, pour eux, elle était révolutionnaire, qu'il fallait la mener le plus loin possible. Et il y avait cette forme, au fond, assez souple, et qui regroupait, en gros, des libertaires, des trotskistes, des maoïstes, on n'en a pas parlé aussi.
Oui.
Qui sont les plus radicaux, ouais, qui vont essayer, eux, de s'implanter en milieu ouvrier. Donc voilà, il y a cette effervescence-là qui se fait autour de la fac de sciences. Avec un petit bémol, c'est que le lien avec Aix ne se fera pas. Alors qu'il se passe des choses à Aix, autour de la fac de lettres, là aussi, c'est un vieux fief de la gauche, voire d'après de l'extrême-gauche, à Aix. Et les transports, à l'époque, ne sont pas très, très organisés. Et puis un dernier intérêt pour Marseille, c'est que ce n'est pas comme au début à Paris où Nanterre est coupé de Paris. Marseille, le mouvement, il a lieu à la fac de sciences, et la fac de sciences, à deux pas de Saint-Charles, elle est au cœur même de la ville.
Oui, très centrale.
Voilà. Le local de l'AGEM, l'Association Générale des Étudiants de Marseille, est sur la Canebière. Et toutes les mobilisations partent des mobiles, enfin partent du kiosque à musique, qui devient une sorte de forum. Là, on met des affiches, on harangue la foule. Enfin, il y a une espèce là de démocratie directe qui s'opère pendant des semaines. Et c'est central pour le coup. Il n'y a pas de quartier latin à Marseille. C'est pas du coup un petit peu. Alors qu'à Paris, on sent qu'il y a un peu une coupure. On le voit à travers la célèbre film ou la célèbre photographie où les ouvriers de Renault n'ouvrent pas les grilles de leur usine aux étudiants. Hein. À Marseille, les choses semblent se mêler un peu plus, même si c'est compliqué par ailleurs aussi.
Oui, donc là, on est loin des revendications d'origine.
Voilà,
on continue à les entretenir, mais on a dépassé ce...
Il y a les deux. Il y a la GEM qui tient le quotidien, qui essaie de faire avancer des réformes, qu'Edgar Faure reprendra d'ailleurs au lendemain de mai 68. Il y aura une réforme assez progressiste, entre guillemets, de l'éducation nationale sous toutes ses formes. Mais il y a ces leaders étudiants qui sentent qu'il y a une possibilité, que tout est possible, comme avait dit Marceau Pivert en juin 36, et qui veulent pousser le mouvement très loin. Et c'est là qu'il va y avoir, au fond, un divorce qui sera durable entre cette extrême gauche qui pense qu'on peut, qu'il y a une situation révolutionnaire en France, et le Parti communiste et la CGT qui vont jouer, qui pensent à la sortie de crise et qui veulent jouer, eux, loyalement, le renvoi aux élections. Hein, parce que ça, le pouvoir gaulliste va vouloir sortir de la crise par les élections, et la gauche classique, SFIO, Parti communiste, même le PSU, l'extrême gauche aussi participera avec Alain Krivine, vont jouer le jeu loyal des élections. Et ça va être une autre histoire. Et le paradoxe de mai 68, c'est que la plus grande grève ouvrière de l'histoire va déboucher sur une immense victoire électorale de la droite. Ça, c'est, oui. L'histoire est souvent friande de pieds de nez comme ça.
Ah oui, absolument. Ouais. Donc, voilà, pour les étudiants, c'est témoin. On assiste même. Je pense que c'est à la fac de sciences, à l'élection d'une assemblée constituante.
On a
des références révolutionnaires.
Tout à fait, oui. Alors, c'est des étudiants, c'est intéressant, parce qu'ils sont... je ne sais pas si les étudiants d'aujourd'hui sont aussi attentifs au passé social de l'histoire de France. Eux, ils ont des références anciennes. D'abord, il n'y a pas de barricade à Marseille, mais pour ceux de Paris, il y a la mise en place de la barricade. C'est tout le 19e siècle qui ressurgit, 1848, la Commune, donc ils ont tout ça en tête. À Marseille, ils ont aussi des références au Front populaire, et puis effectivement à la Constituante, dans les épisodes de la Grande Révolution française. Hein. Ils se situent dans une perspective révolutionnaire adossée à la prise en compte de toute l'histoire sociale du pays, l'histoire du mouvement ouvrier, au fond, voilà. Qu'ils lisent beaucoup. Il y a à Marseille, d'ailleurs, l'équivalent, c'est nommé Espana, un ancien militant communiste qui s'occupe du mouvement de la paix, qui a créé une librairie très, très engagée, une sorte de Maspero local. Hein, voilà. Et il va faire apparaître, alors, justement, les éditions Maspero. Il va remettre au goût du jour Rosa Luxembourg, Panococ, des grands penseurs du marxisme, mais dans la pente la plus souvent radicale, quoi. Mm-hmm. Voilà. Donc il y a cette effervescence dont parlait Micheline Abour à l'instant.
Oui.
Mais qui est de partout, qui est chez les militants communistes, chez les militants d'extrême gauche, qui est bien partagée.
Ouais. Et donc, mais vous avez une idée de ce qui se disait dans cette assemblée constituante, non? Vous n'avez pas trouvé d'éléments, de témoins qui auraient pu vous en parler? Est-ce que c'était véritablement quelque chose qui avait un objectif constitutionnel ou pas?
Il y avait sans doute la volonté de vouloir sortir, là je tire un peu peut-être un petit peu le trait, mais il y avait le fait de vouloir sortir du pouvoir personnel, ce qu'on disait tout à l'heure, 10 ans ça suffit, donc de l'autoritarisme, et il y avait la volonté d'un recommencement, donc constituer peut-être une nouvelle république, en tout cas aller vers une république sociale.
Oui, il en était déjà question. Voilà.
Et puis il y avait surtout chez ces étudiants, ça on l'a entendu, on a vu des propos tenus par ces étudiants radicalisés, ils ne faisaient pas trop confiance à la démocratie représentative. Ils étaient sur un modèle de démocratie directe, et c'était ça au fond leur modèle. D'où au fond, ces législatives qui vont se profiler à l'horizon présentent peu d'intérêt pour les leaders de l'époque. Hein. Ce qui les intéresse, c'est la démocratie directe, l'Assemblée générale. Donc ils vont jouer un petit peu, c'est ça qui est intéressant en mai-juin 68, de toutes les panoplies que promeut l'action sociale. C'est-à-dire la manifestation, la grève, l'occupation, là, ça fait écho pour eux à juin 36, voilà. L'Assemblée générale dans laquelle on décide tous les soirs est-ce qu'on reconduit l'action, et puis la vie quotidienne. Et au fond, quand on occupe des locaux, ça va être pareil pour les jeunes ouvriers, on ne peut pas passer sa journée à se distraire. C'est un forum permanent, on est là, on refait le monde ensemble, on rediscute des choses. Alors pour les étudiants, on refait l'université, pour les jeunes ouvriers et puis les moins jeunes, parce qu'il y en a qui ont connu 36 et tout, on refait aussi le monde du travail. Avec au fond, en revendication, pas simplement les revendications classiques que va obtenir la CGT au fond à Grenelle, augmentation salariale, c'est pas à mes estimés, augmentation salariale, réduction du travail, elle y sera pas d'ailleurs, mais les conditions de travail, ils avaient surtout ces ouvriers en vue une autre organisation du travail, mettre fin à la hiérarchie, il faut voir ce qu'était la hiérarchie très pesante de l'habitude de l'usine dans ces années-là, avec les petits chefs qui pèsent là, qui au jour le jour comptent la moindre absence pour aller aux toilettes, vous les avez sur le dos toute la journée. Donc là, il y avait vraiment, contre cet autoritarisme de l'usine, vraiment, quelque chose de fort qu'il voulait changer. Et il y a eu, ça a été trop peu le cas dans le pays, des rêves ou des essais de pouvoir ouvrier, si ce n'est d'autogestion. Il y avait ce rêve-là chez certains, et ça devait être le cas peut-être de cette assemblée constituante qui rêvait d'une république sociale dans laquelle les ouvriers, les étudiants auraient le pouvoir. Voilà. Il y a peut-être sans doute ça.
Oui, ben, c'est bien parce qu'on va pouvoir, passer justement au monde ouvrier. Je voulais vous faire écouter. Puisque ce mouvement, il est quand même international, je voulais vous faire écouter cette chanson emblématique de Bob Dylan, « The Times They Are Changing ».
Come gather round people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing.
Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Zinzinex, que vous écoutez l'émission Mare Nostrum, qui aujourd'hui parle de Marseille en 1968, en mai-juin 1968, avec Gérard Lédé et Marie-Noël Hôpital. On va donc passer maintenant à l'autre grand acteur de ces journées à Marseille, c'est-à-dire le monde ouvrier, avec cette remarque préliminaire qui j'ai trouvé intéressante. Puisque on dit quand même que le mouvement à Marseille était plus ouvrier qu'étudiant, et que quand on regarde les grévistes, les chiffres de grévistes, dans le monde ouvrier, ça atteint des pourcentages absolument extraordinaires. Alors j'ai trouvé ça quelque part en préparant l'émission, 98% d'enseignants, 90% de métallurgie, 80% réparation navale, 100% docker, donc des chiffres de grévistes absolument étonnants.
Oui, inégalé, et puis ça va être au niveau national, mais sans doute à Marseille, la plus grande grève de l'histoire. Hein. Plus grande que celle qui est restée dans les mémoires, au fond, c'est celle de mai et juin 36. On a revu les chiffres, là, en préparant toutes ces conférences un peu. Juin 36, on a atteint autour de 3 millions, dans la courbe la plus haute, 3 millions d'ouvriers en grève. Il est vrai que le secteur public, à l'époque, n'y est pas présent. Et en mai et juin 68, le chiffre est multiplié par 3. On est sans doute autour de 8-9 millions de grévistes au moment le plus proéminent de la courbe. Et c'est quelque chose qui a été d'ailleurs, je trouve, longtemps évacué par les analyses de mai et juin 68. Il y a 20 ou 30 ans, on parlait encore peu de la grève ouvrière. Il a fallu les travaux de Xavier Vignat, notamment, de Jean-Carini Fournel, dont on parlait tout à l'heure avant l'émission, pour mettre cette grève ouvrière... Peut-être pas au cœur, mais au moins dans le prolongement et dans la crise. Parce que mai 68, c'est une crise étudiante, c'est une crise sociale et ça va devenir une crise politique. Et au fond, ce ne sont pas trois crises qui se succèdent, c'est trois crises qui s'entremêlent. Voilà. Même si le mouvement ouvrier, à Marseille comme ailleurs, se développe après le 13 mai, après la réaction face à la brutalité de la répression policière qui est le véritable catalyseur de la mise en branle du mouvement ouvrier. Dans sa dimension la plus totale, la plus globale. Donc à Marseille, ça commence par les établissements ferroviaires, ça s'enchaîne avec le tripostal, les enseignants le 21, le 22 mai avec la FEN qui propose aussi la grève générale, etc. Et tous les bastions, hein, la réparation navale, avec des chiffres voilà, qui sont ultra, ultra majoritaires. Et Force ouvrière aussi qui joue le jeu, qui insiste, elle, pour le maintien d'un cadre strictement revendicatif. Hein. Du côté de Force ouvrière, il y a toujours le désir de ne pas aller sur le plan politique, de ne pas penser forcément à un lien avec le politique.
Oui, donc, c'est un ADN.
Ouais, c'est un ADN qui vient de 1948.
Oui, ouais. C'est ça, ouais, la création de
Force ouvrière. Et la CFDT qui est jeune, hein, qui est jeune à l'époque, elle n'a que 4 ans. La CFTC s'est déconfessionnalisée en 64. Et une CFDT qui va apporter de la novation, notamment autour de la notion d'autogestion. Ce dont on parlait tout à l'heure, là, ce rêve ouvrier de prise en main du travail par les ouvriers eux-mêmes, la CFDT va le porter pendant quelques années. Elle va l'abandonner après, ça on peut le regretter, mais c'est une autre histoire.
Oui, est-ce que ça s'exprime ça dans les grands, dans les lieux importants là, de la grève à Marseille, chez les dockers au CEA, vous avez aussi un témoignage qui est intéressant, que vous avez retranscrit. Est-ce que ça s'exprime ou est-ce que c'est exclusivement des revendications qui sont plutôt celles du syndicat dominant à l'époque, la CGT ?
Ce qui domine, c'est toujours le rapport de force, hein, c'est ce que porte la CGT. Elle est sur des revendications classiques et au fond, c'est son rôle, elle joue le rôle de... Il faut voir que les salaires à l'époque, il y avait des salaires très bas. Il y avait 5 millions de pauvres en France, sur une population de 42 millions, je crois. Il y avait 3 millions de personnes qui vivaient avec 500 francs par mois, ce qui correspondrait à 600 euros, hein, toute proportion gardée aujourd'hui. Donc il y avait cet effort à faire en faveur des salaires. Et les accords, c'est pas des accords de Grenelle d'ailleurs, c'est un protocole d'accord, voilà. C'est un protocole qui va être signé en partie, voilà, vont apporter 33% pour le SMIC, 10% en moyenne pour les salaires. Aujourd'hui, on parlerait de grandes victoires hein, syndicales. La création de la section d'entreprise dans l'usine, c'est-à-dire le droit d'exercer syndicalement sur son lieu de travail, ce qui était impensable quelques années auparavant. Donc il y a de belles avancées. La CFDT, elle avance cette revendication-là de l'autogestion. Elle est un petit peu isolée avec le pendant politique. C'est du côté du PSU que viennent ces idées-là d'autogestion, en tout cas de participation. Pas de participation, parce que De Gaulle va
essayer... C'est autre chose.
Ouais. Ça, c'est De Gaulle qui va reprendre la thématique sur la participation qui n'est pas du tout comparable. Hein. Mais voilà, ce qui domine, c'est quand même les revendications classiques de la CGT. Et puis le rôle important, c'est ce que je signale dans l'article, de la FEN. La FEN, elle a un rôle d'arbitre, au fond, entre la CGT et la CFDT. Elle veille à ce que ces grandes centrales ouvrières, comme on disait, lutte ensemble. Il y a eu un protocole, il y a eu un, comment ça s'appelait, un comité de liaison. Enfin, il y a une unité d'action qui a été actée en 1966 entre la CGT et la CFDT, qui là joue son rôle à fond. Et la FEN va essayer à Marseille, notamment, de servir de liaison entre la CGT et les étudiants. Parce qu'il y a du côté de nombreux dirigeants de la CGT une méfiance pour les leaders un petit peu gauchistes de mai, une méfiance envers ce qu'ils appellent leur aventurisme. C'est le terme qui revient souvent dans les termes de leaders syndicaux, voire de leaders communistes.
Oui, 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 on a vu en particulier dans la bouche de Georges Sély, c'est Georges Sély qui était secrétaire général de la CGT au début du mois de mai à Paris, où c'est vrai qu'il montrait une certaine méfiance. Et c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a souvent entendu, pendant des années, on a entendu une certaine légèreté dans la revendication de 68. Et en fait, ce qui est plus récent dans l'historiographie, c'est l'approfondissement des revendications vers des revendications qui sont sociétales, etc.
Oui.
Et donc, ça, quand même, il a fallu quand même un certain temps de recherche historique et de travaux historiques, de publication de travaux historiques pour en arriver là.
Exactement, parce que sinon on laissait croire que c'était une révolution entre guillemets culturelle qui n'aurait eu agi que sur la culture ou sur les mœurs. Hein. Ça a joué ça aussi. Hein. Il y a eu des vies qui ont été bouleversées par ces événements-là et par les années qui ont suivi. Mais c'est quand même en même temps un grand, grand mouvement social comme on en verra peu ou peut-être plus en tout cas de cette hauteur-là. Hein. Donc il fallait mettre au centre là, voilà, la crise sociale, le fait que les ouvriers se sont pris en charge. Et en plus, ce sont des grèves qui ne sont pas des grèves presse-bouton. Ce n'est pas Georges Sély, la Confédération, qui décide. Hein. Il laisse une certaine liberté aux équipes syndicales. Alors, avec des dirigeants qui sont des fidèles quand même, hein, qui ne font pas n'importe quoi. Mais il y a cette liberté. Et Grenelle, au fond, c'est ça. Parce que Sély va à cette réunion à Grenelle. Il ne signe pas parce qu'il sait qu'il doit retourner et qu'il veut voir un petit peu comment la base réagit. Une base qui va relancer le mouvement de grève. Hein, la grève ne va pas s'arrêter après Grenelle. Elle va se poursuivre. Et à Marseille, ce sont les dockers qui vont la poursuivre très longuement jusqu'au mois de juin.
Voilà. Et donc là, à Marseille comme ailleurs, dans les centres qu'on a évoqués tout à l'heure, sur le port, dans les dépôts de la SNCF, chez les enseignants, etc., on a occupation des lieux comme ailleurs, comme à Paris, occupation des lieux de travail.
Oui, oui, il y a l'occupation, notamment dans le monde ouvrier. On occupe l'usine. Il y a les réminiscences de mai et juin 36.
Oui, c'est ça.
Avec des ouvriers, des militants qui étaient déjà là, qui étaient ouvriers, parce que la retraite à l'époque, c'est 65 ans. Donc, ils sont encore, pour ceux qui étaient jeunes au moment du Front Populaire, ils sont encore là. Donc, il y a ces réminiscences. Par contre, je ne crois pas qu'il y ait d'exemple, ce qui va avoir lieu ailleurs dans le pays, d'un phénomène nouveau qui va être la séquestration. Hein, ça, c'est une forme nouvelle, radicale, hein, de l'action ouvrière, de séquestration de patrons, par exemple. Hein, voilà,
ça ne se fait pas à Marseille, ça ne s'est pas fait à Marseille.
Pas à ma connaissance. Non. Ouais. Enfin, je parle avec prudence un petit peu,
bien sûr,
on peut redécouvrir des choses, mais je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu des choses comme ça, de ce type-là à Marseille. Ce qui prévaut à Marseille, c'est que la CGT contrôle de façon très étroite le mouvement. Ça explique aussi qu'il n'y ait pas eu de violence tout à l'heure.
Oui.
Il y a ce savoir-faire du maintien de l'ordre de la CGT qui officie à plein, quoi, hein, qui empêche tout débordement éventuel. Donc ça joue fortement là, à Marseille.
Oui, on a beaucoup parlé des services d'ordre des dockers,
voilà,
qui sont à même de faire en sorte que les choses se passent bien. Alors, est-ce qu'on a un témoignage?
Oui, justement. Oui.
Alors, un témoignage, oui, sur la grève de mai-juin 68 aux centrales téléphoniques de Marseille, par Claude Navarro. Alors, elle raconte... Hiver 1967-1968, je suis la secrétaire de la section syndicale CGT de Marseille Interurbain, le principal centre téléphonique de la région. Le téléphone n'est automatique que dans la ville de Marseille. Pour toute autre communication, il faut passer par l'Inter, qui joue donc un rôle important. Le personnel, 400 personnes environ, est féminin à 90%. C'est un personnel combatif, avec une forte section syndicale CGT qui ne laisse rien passer. Il y a aussi une cellule du PCF de 20 personnes. Nos principales revendications concernent le temps de travail. Nous réclamons 36 heures hebdomadaires, comme à l'Inter de Paris, et la double compensation des dimanches et jours fériés, sans succès. Pour le personnel féminin, c'est très important car le travail est pénible. Le célèbre 22 anières de Fernand Reynaud n'est pas loin de la réalité. Notre profession est bien placée pour le palmarès des dépressions nerveuses. On ne disait pas encore burn-out. Avec, pour bien encadrer tout ça, une surveillante pour 10 personnes, un rendement calculé journellement, une notation supplémentaire par rapport aux autres fonctionnaires, le carnet d'opératrice. À partir de janvier 1968, et ceci pendant 3 mois, nous faisons grève tous les dimanches et les jours fériés pour obtenir la double compensation, sans succès. Au mois de mai, après la révolte violemment réprimée des étudiants, les organisations nationales appellent à la grève illimitée. Le vendredi 17 mai au soir, les cheminots de Marseille se mettent en grève. Le samedi matin, nous réunissons le personnel présent pour commencer une grève avec occupation des locaux. Une manœuvre de la direction aidée par l'une des responsables de IFO fait échouer notre tentative. C'est là qu'un cadre, manifestement satisfait, me dit « n'en parlons plus ». Ce à quoi je réponds « ah, certainement pas ». Le lundi matin, dès la première heure de service, à 7h, nous arrêtons le personnel devant la porte, rue Colbert. La CGT et la CFDT appellent à la grève avec occupation. Ceux qui sont pour la grève, sur le trottoir de la porte d'entrée. Ceux qui sont contre, sur l'autre trottoir. La grande majorité se prononce pour la grève. Nous montons dans les services et demandons au peu de personnel ayant déjà pris son service de participer à la grève ou de quitter les locaux. Un certain nombre de collègues restent, dont l'autre responsable de FO qui participera à la grève et à l'occupation avec nous. L'occupation commence. Il faut répondre aux appels, faire le tri, transmettre les urgences et refuser les autres. C'était un travail important et difficile, mais les grévistes y sont investis avec conviction. Il fallait du personnel tout le jour, de 7h à 21h, la nuit étant assurée par les grévistes hommes. Bientôt, la pénurie d'essence étant totale, le problème des transports se pose. Avec notre syndicat départemental et les camarades du garage de la Poste, nous organisons un circuit de ramassage pour les grévistes. L'occupation des locaux était pour nous un souci constant. Nous avions peur que des éléments, notamment du SAC, un service d'action civique, intentent à la sécurité des installations. Mais tout s'est bien passé. Pas de pagaille, comme tentait de le dire la télévision. Durant le mois de mai, réunions et manifestations se succèdent. Avec les accords de Grenelle, entre guillemets, beaucoup de revendications sont satisfaites. Forte augmentation de salaire, reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, liberté syndicale. Mais pour nous, un gros point noir, nous n'avons pas les 36 heures. La police vient nous faire évacuer les locaux. Nous réunissons à la Bourse du Travail FO. Le personnel vote à l'unanimité la poursuite de la grève. Au bout d'une semaine de négociations avec la direction régionale, nous obtenons satisfaction. Les 36 heures, à partir du 1er juillet, la double compensation des dimanches et jours fériés, nous reprenons le travail. Malgré tout ce qui peut se dire sur le rôle des syndicats du Parti communiste, mai 68 a été une victoire pour les travailleurs. Pour nous, cela a permis à un grand nombre de téléphonistes, des inter et des services de renseignement téléphonique de terminer leur carrière avec de bien meilleures conditions de travail. Cette victoire a aussi été celle de l'Union, car les 3 organisations syndicales sont restées unies jusqu'au bout, malgré un début chaotique.
Merci pour ce témoignage. J'avais vu quelque part également que les CDR, c'est les comités de défense de la République, c'est ça ?
C'est ça.
Avaient attaqué un central téléphonique à Marseille.
Tout à fait. La violence, si elle est possible, c'est pas tellement face aux forces de l'ordre lors des manifestations, c'est plutôt vis-à-vis de ces CDR là qui étaient noyautés, si ce n'est animés par des anciens de l'OAS ou des anciens partisans de l'Algérie française et qui étaient prêts à en découdre. Donc souvent, on a été à deux doigts de violences terribles.
La catastrophe.
C'était des milices qui étaient armées, hein, et donc ça a frôlé une violence meurtrière.
D'accord. Alors donc, sur ce témoignage, on retiendra donc la grande rigueur des centrales syndicales, finalement toutes confondues, pour fonctionner ensemble. Ça explique vraisemblablement ce que nous disions au début de l'émission, qu'il y a eu moins de violence à Marseille et que finalement il y a eu un encadrement syndical, particulièrement de la CGT, mais des autres aussi, finalement.
Oui, des autres aussi.
Qui a permis donc des événements beaucoup moins violents, avec moins d'accidents, entre guillemets, si je puis dire, que ce qui s'est passé ailleurs.
Oui, parce que mai 68, on dit toujours, Et ça m'a toujours ennuyé, cette phrase-là. Ça n'a pas été une révolution, ne serait-ce parce qu'il n'y a pas eu de mort. Or, il y a eu des morts. Il y a les deux ouvriers à Sochaux, là, Montbéliard. Il y a eu le jeune Gilles Totin, un jeune lycéen maoïste qui s'est noyé dans la Seine. Ouais. Il y a même eu un commissaire de police à Lyon, pour voir. Il faut voir aussi du côté des forces de l'ordre. Donc, il y a eu des morts. Et puis, sans parler de Pierre Auvernet par la suite. Voilà, c'est une période où la violence aurait pu être possible. Et il faut rendre hommage ensuite aux maoïstes qui pouvaient avoir en tête une certaine violence légitime parce que révolutionnaire. Et dans les années qui vont suivre, ils ne vont pas basculer dans la violence. Mm-hmm. Sartre notamment va les inciter à ne pas franchir le Rubicon. Et ça va être en tout cas bien différent de ce qui va se jouer en Italie ou en Allemagne.
Oui, bien sûr.
Où là, pour le coup, le passage à la violence se fera de façon dramatique.
Oui, tout à fait. Pour terminer, donc, dernière question. Que reste-t-il de ces événements ? Qu'est-ce qui reste sur Marseille ? La mémoire de ces événements à Marseille, est-ce que les gens en ont gardé un souvenir qui est plutôt un souvenir positif ou non ?
Alors, il y a eu un sondage récemment, un mois ou deux avant les commémorations du cinquantenaire, et on avait la surprise, en tout cas moi qui a une empathie pour ce mouvement, de voir que les gens, je crois 78%, avaient une bonne opinion de mai-juin 68. Ne serait-ce que pour ce que ça a apporté de liberté, liberté collective, de liberté individuelle, de sortir de cette société corsetée, d'un gaullisme un peu vieillissant qui empêchait toute prise d'initiative, que ce soit à l'école, à l'usine, au lycée, parlons pas de l'armée, etc. Donc il y a ce côté-là. Par contre, du côté du monde ouvrier, si on veut regarder ça de près, il y a eu des études de fait montrant qu'il n'y a pas eu d'enjeu mémoriel. Quand on regarde la mémoire ouvrière, on voit bien ce que le Front populaire est encore présent dans les têtes et dans les travaux. Et les organisations elles-mêmes, le Parti communiste, la CGT, la CFDT, Force ouvrière, n'ont pas porté un héritage de mai suffisamment valorisant. Ce sont les historiens qui ont fait ce travail pour remettre un petit peu ce qu'on appelait le mouvement ouvrier à l'époque, qui commençait à devenir un mouvement social. Puisqu'il y a des thématiques qui vont affleurer, comme le féminisme, l'écologie, etc., le droit des homosexuels. Voilà, ça, ce sont des choses nouvelles qui font irruption sur la scène sociale. Eh bien, le mouvement ouvrier n'en a pas fait un enjeu de mémoire, au fond. C'est ça, un petit peu, l'étonnement, alors que ça se termine... peut-être parce qu'il n'y a pas de perspective politique, aussi. Hein. Mais juin 36, on a les deux. Pour le prix de... Oui. On a une victoire électorale, Léon Blum au pouvoir, donc un gouvernement de gauche bien affirmé, plus un mouvement social. Là, il y a un mouvement social très important, mais pas de perspective politique. Chacun joue un peu. Il n'y a pas l'union de la gauche, elle va venir à partir de 72. La gauche non communiste tente à Charletti de dégager une perspective un petit peu réformiste autour de Pierre Mendès-France. Ça ne prend pas. Mendès-France est lui-même très sceptique là-dessus. Et, d'ailleurs, il va à Charletti, il ne prend pas la parole, Mendès. Et puis le Parti communiste, qui se voit exclu de Charletti, met en avant par ses militants le gouvernement d'union populaire. C'est-à-dire, s'il doit y avoir une alternative, elle se fera avec nous. Et après tout, le Parti communiste, c'est le premier parti de gauche à l'époque, donc il y avait cette légitimité-là. Mais au fond, cette gauche était trop divisée pour pouvoir présenter une alternative, et du coup, elle en paie le prix par une défaite électorale qui est importante à Marseille. Hein. Au premier tour, c'est l'UDR, justement, qui obtient 35% des voix et qui devient le premier parti sur Marseille.
On peut dire quand même qu'il y a eu quand même une victoire, c'est les conséquences législatives qu'il y a eu. On parlait tout à l'heure de Garfort au ministère de l'Éducation nationale. Oui. Il y a eu une réforme qui a été intéressante. On parlait également donc de ce qui a pu se faire concernant les conditions de travail, concernant la liberté syndicale. Oui. Et donc il y a quand même eu là quelque chose d'extrêmement positif.
Tout à fait. Oui.
Mais voilà, nous voilà arrivés au terme de notre émission.
Ça passe vite.
Ça passe vite. Ben oui, je sais bien. Merci beaucoup de votre venue ici. On vous attend pour la prochaine, bien sûr. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous écouter le jeudi à 12h30 et le samedi à 15h, les premières et troisièmes semaines de chaque mois sur 88.1. Les deuxièmes et quatrièmes semaines sur l'ensemble de notre réseau, le jeudi également à 12h30 et le samedi à 19h. On peut aussi nous écouter en replay ou télécharger toutes nos émissions sur le site de radiozinzinex.org, rubrique émissions, Mare Nostrum, où vous pouvez également laisser des messages auxquels je répondrai. La prochaine émission sera consacrée à l'exposition actuellement au MUCEM, L'Or, avec deux des commissaires de cette exposition. Au revoir.
D'autres s'élancent au printemps, de quoi rêves-tu? D'un printemps ininterrompu.